chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour et bienvenue à cet épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Donc, mon nom est Julie Blanchette et je suis en compagnie de
Sophie Martin. Nous sommes toutes deux conseillères en soins à la direction des soins infirmiers.
Donc, aujourd'hui, on sait que notre façon de soigner a beaucoup évolué dans le temps. Quand on regarde en arrière, on peut voir que la place d'usager et ses proches, c'est pas la même qu'aujourd'hui. On leur fait maintenant vraiment plus de place, autant dans les décisions qui vont les concerner que dans les soins. Puis c'est vraiment super parce que l'usager et ses proches sont maintenant considérés comme des membres de l'équipe au final. Mais je me demande toutefois si c'est si facile pour tout le monde de mettre ça en pratique à tous les jours. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sophie?
Effectivement. Mais c'est intéressant ce que tu apportes comme point. C'est pas évident de voir comment intégrer cette relation-là puis la place à l'usager concrètement à tous les niveaux de notre pratique. Ça peut être confrontant de laisser les usagers décider ou tout faire parce que comme professionnels de la santé, ben on va trouver que c'est nous là, qui a les connaissances puis qui a les compétences nécessaires. Puis c'est un défi de faire les choses avec lui, avec l'usager. Puis parfois, on peut se sentir mal de faire les choses pour lui.
Oui, tout à fait. Ça semble pas toujours si simple que ça. Mais aujourd'hui, on a la chance, justement, d'accueillir en studio Cynthia Raymakers, qui est agente de planification, programmation et de recherche au service expérience usager et qui pourra certainement nous éclairer et nous aider à mieux comprendre comment on peut mieux intégrer cette approche dans notre quotidien comme professionnel en soins infirmiers.
Puis je sais qu'on joue un rôle important dans l'intégration de l'usager puis de ses proches tout au long de la trajectoire de soins. Alors, ça va sûrement nous aider.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Hey, avez-vous entendu parler de la nouvelle formation qui est offerte aux infirmières auxiliaires dans le secteur d'oncologie? C'est une formation vraiment qui permet à certaines d'entre elles d'administrer dès maintenant des agents antinéoplasiques par voie sous-cutanée ou intramusculaire à la clientèle.
C'est vraiment super, puis c'est une belle façon d'optimiser l'utilisation du plein champ d'exercice de chaque professionnel. Puis j'imagine que ça va aider l'organisation des soins dans ces secteurs-là aussi.
Oui, en effet. C'est important quand même de bien encadrer et bien soutenir cette nouvelle pratique-là. Il y a eu des formations spécifiques qui ont été offertes à certaines infirmières auxiliaires qui pratiquent déjà dans les secteurs d'oncologie et les infirmières également qui ont été mises dans la boucle parce qu'une collaboration étroite et une bonne compréhension des rôles et des responsabilités de chaque professionnel, c'est important pour que ces soins-là soient faits de façon sécuritaire.
Si je comprends bien, ça ne sera pas toutes les infirmières auxiliaires du CIUS de l'Estrie là, qui peuvent maintenant administrer les agents antinéoplasiques là, par voie sous-cutanée ou intramusculaire.
Non, en effet. L'infirmière auxiliaire doit quand même être formée, supervisée et finalement qualifiée pour être autorisée à administrer les agents antinéoplasiques par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Elle pourra procéder à l'administration des agents antinéoplasiques là, vraiment suite à l'évaluation de l'usager et après révision de l'ordonnance par une infirmière qui doit également être qualifiée pour administrer l'agent antinéoplasique. Puis aussi, bien, il est important d'ajouter qu'en vertu de l'article 14 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, là, ils doivent être diligentes lors de l'administration du médicament, c'est-à-dire avoir notamment une connaissance suffisante du médicament et bien sûr respecter les principes et les méthodes concernant l'administration.
C'est vraiment super de voir de belles avancées comme ça. C'est en collaborant ensemble puis en osant parfois faire autrement qu'on peut continuer d'améliorer les soins offerts. Une belle collaboration aux soins infirmiers. Bravo au secteur d'oncologie.
Oui, puis c'est maintenant une dizaine d'infirmières auxiliaires qui sont formées puis qui ont débuté l'administration d'agents antinéoplasiques sous-cut puis intramusculaire. Là. Et ce n'est qu'un début. Donc, d'abord, bonjour Cynthia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est super heureuse de pouvoir échanger avec toi en lien avec la place d'usager dans nos soins pour aider là, les professionnels en soins infirmiers à mieux comprendre comment on y arrive concrètement.
Bonjour Julie, bonjour Sophie, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous deux sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur.
Merci d'être là, Cynthia. J'espère que ce balado va tous nous permettre d'en apprendre davantage sur votre rôle professionnel hein, en soins infirmiers pour optimiser cette place, cette contribution si importante des usagers et de leurs proches. Savoir et stéthoscope, ben, ça commence maintenant.
Dis-moi, Cynthia, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord pourquoi c'est si important que les usagers aient leur place et ce rôle actif-là dans leur expérience de soins?
Oui, bien sûr, Julie. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que les gestes aussi petits qu'ils peuvent avoir l'air ont un impact significatif sur l'expérience des usagers et de leurs proches, peu importe dans quel secteur d'activité vous êtes. Même les actions les plus simples, quand elles sont réalisées avec intention, empathie, professionnalisme, peuvent améliorer considérablement la santé et le bien-être de l'usager. Et aussi, très important, favoriser l'exercice dans son rôle primordial, comme tu le disais, comme acteur de sa santé et de son bien-être. Ça, c'est important. Avant d'aller plus loin, je propose qu'on l'entende dans les mots d'un usager, parce qu'après tout, c'est pour eux qu'on fait tout ça. Je vous invite donc à écouter M. Michel Carpentier, qui est un usager, une personne proche aidante, qui fait aussi partie d'un comité des usagers ici au CIUSSS de l'Estrichus. On lui a demandé en quoi le fait d'être impliqué dans ses soins, ça peut influencer son expérience et quels éléments sont à considérer selon lui. Voyons ce qu'il a à nous partager à cet effet.
Moi, de mon point de vue, un des principaux éléments qui influence l'expérience des soins, mais aussi le rôle actif des usagers et des proches, ça repose en très grande partie sur la communication. L'expérience n'est jamais la même s'il n'y a pas la communication qui va avec. Ce n'est pas juste des traitements, c'est aussi une communication pendant. Comment un usager peut s'impliquer et devenir actif dans ses traitements si on ne communique pas, si on ne se parle pas? Plus on va se parler, plus on va se comprendre, plus je risque de m'impliquer, de m'investir et de faire un partenariat.
Monsieur Carpentier souligne bien ici que la communication est l'une des grandes bases de la considération de l'expérience usagée. Pour comprendre la personne en face de moi, je dois d'abord l'écouter, comprendre qui elle est, quelles sont ses préférences, besoins, visions, intérêts et capacités, et lui transmettre de l'information utile et souhaitée, adaptée, dans des mots qu'elle comprend. Au fond, là, en une phrase, considérer l'expérience des usagers et des proches, on le fait parce qu'on en a besoin pour réaliser notre mission. Ça augmente les résultats de santé, de bien-être, la satisfaction aussi. Ça nous aide à adapter et cibler nos interventions en cohérence avec ce que l'usager souhaite, avec son profil et ses préoccupations. Ça favorise sa sécurité. Donc, un usager qui nous dit « Ah, oh, habituellement, ma pilule est ronde, c'est ovale. Est-ce que c'est normal, ça? » Aussi, une meilleure compréhension, une vision commune du plan de soins favorise une plus grande observance au traitement. Ça réduit les réadmissions. Ça favorise le rôle essentiel du proche pendant et en dehors de l'épisode de soins. J'ose dire aussi que garder dans sa conscience l'expérience usagée dans toute sa richesse, ça aide à se reconnecter à des éléments du pourquoi on a choisi sa profession en soins infirmiers, consolider le sens au travail. Bref, on a définitivement avantage à le faire et ça doit faire partie intégrante de la qualité des soins et services. D'un côté, l'établissement a avantage à tenir compte de la voix des usagers, de leurs proches dans le développement et la révision des soins et services. Puis d'autre côté, dans la prestation des soins et services, le personnel infirmier a avantage à les impliquer pour adapter leurs interventions et renforcer leur pouvoir d'agir. Tu sais, le proverbial empowerment.
Wow! C'est super intéressant tout ça. Je suis d'accord avec toi, Cynthia, puis avec M. Carpentier, que la communication est essentielle puis que c'est important que l'usager soit actif dans ses soins. Mais je me demande quand même parfois si c'est vraiment réaliste de toujours avoir cette approche-là. J'ai l'impression que c'est pas toujours évident pour tous, là.
Exactement, Sophie. Puis je suis certaine qu'il y a plusieurs professionnels en soins infirmiers qui se demandent justement comment y arriver concrètement par moment. Fait qu'avant de continuer, on va aller écouter ce que Hélène, qui est infirmière auxiliaire aux soins à domicile, et ce que Gaëlle aussi, qui est infirmier en soins intensifs, ont à nous partager à ce sujet-là. On leur a demandé comment, eux, ils arrivent vraiment à poser des petits gestes simples au quotidien pour impliquer l'usager et ses proches et comment ils voient surtout les répercussions de cette approche-là. Donc, on les écoute.
Une manière qui est, selon moi, simple d'impliquer l'usager dans ses soins, c'est de prôner son autonomie dans ses soins de base. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être des grosses actions, mais simplement, par exemple, à la mobilisation au lit, lorsqu'on veut installer une bassine au patient, plutôt que d'être deux infirmières, de mobiliser le patient nous-mêmes, de tout faire, j'essaie de prendre le temps de voir avec le patient qu'est-ce qu'il sent à l'aise de faire, comment il pourrait nous aider pendant le processus. Je pense que notre rôle, c'est beaucoup d'encourager puis de soutenir les patients dans leur adaptation, puis aussi de pas tout vouloir faire pour eux.
Et en fait, la façon que je fonctionne, c'est quand j'arrive chez un usager, je me présente, j'essaye de voir un peu l'histoire de vie, si les proches sont là. J'essaie de voir avec eux si à quel niveau. Ils ont envie de s'impliquer, puis l'usager aussi, pour essayer de le faire comprendre qu'on c'est un travail d'équipe, en fait. Là. Je pense que plus qu'on va solliciter la famille, l'usager, plus qu'on va arriver à avoir la collaboration, puis un succès aussi avec la prise en charge des soins.
Ça m'a fait sourire d'entendre Gaëlle qui nous rappelle que parfois, là, en effet, on a envie de faire à la place de l'usager. Ça nous arrive aussi tous un jour ou l'autre. Là. Mais je pense par contre que c'est toujours bien intentionné. On veut l'aider, on voit que c'est pas facile, tu sais.
Oui, absolument, Julie. Gaëlle et Hélène donnent des exemples bien adaptés à leur contexte à eux. Accompagner les usagers, c'est effectivement pas faire à leur place, c'est faire avec eux. C'est vraiment ça la nuance. En partant de l'usager, de son proche, le personnel infirmier est capable d'ajuster en cohérence son intervention. Il faut avoir en tête qu'on marche dans un changement de culture, hein, où est-ce qu'on agit déjà pour l'usager, il s'en fait déjà au quotidien, mais on veut faire de plus en plus agir avec lui et ses proches. Il y a une panoplie de gestes qu'on peut faire. On peut, par exemple, transmettre l'information utile et souhaitée pour la personne dans un langage compréhensible, lui signifier qu'on a bien compris ce qui compte pour lui dans les prochaines étapes, regarder avec lui comment il peut exercer son rôle pendant, en dehors de l'épisode de soins toujours, l'encourager à poser des questions, l'écouter, bien sûr, simplement lui dire d'emblée, on va travailler ensemble, votre participation est importante. Ça vient de légitimité aussi dans sa participation. Il ne faut pas oublier que cette participation active, ce n'est pas nécessairement naturel pour l'usager non plus. C'est un changement de paradigme pour lui aussi, qui est habitué à vous placer comme l'expert. Aussi, l'accompagner efficacement dans les prises de décision qui le concernent, donc lui présenter les différentes options possibles avec les avantages et inconvénients, répondre à ses questions, préoccupations, pour lui permettre de prendre une décision libre et éclairée qui lui convient et qu'on respecte. Ça a été déjà abordé. Favoriser le rôle des proches est très important, donc on peut favoriser leur présence rassurante, on peut favoriser leur participation dans les rencontres avec les intervenants, lorsqu'il y a de l'information à donner, les avoir comme alliés aussi dans la sécurité de l'usager. Les écouter quand ils nous disent, par exemple, « je ne reconnais pas ma mère, c'est pas habituel ». Naturellement, on ne fait pas participer l'usager et son proche juste comme ça, sans rationnel. Ce qui compte, c'est vraiment d'être bien au fait de notre intention.
Finalement, en le faisant avec eux, ben, nos interventions puis nos démarches, ça va être beaucoup plus pertinent puis gagnant en bout de compte.
Oui, puis j'irais même jusqu'à dire que si on n'adapte pas notre démarche en fonction de chaque usager, chaque situation qui sont uniques, là, on risque de passer à côté des constats qui sont importants puis même à faire des actions ou des interventions qui peuvent aller carrément à l'encontre finalement de ce que l'usager là, veut vraiment.
Je suis vraiment à la même place que vous, les filles. J'ajouterais que tout ça, c'est un processus qui doit bien entendu être fait en équipe. Une équipe qui inclut l'usager, son proche, et une équipe dans laquelle toutes ces précieuses informations, les décisions, les actions qui en découlent doivent bien circuler pour que tous puissent les intégrer dans leur démarche de soins. La cohérence et la pertinence, ça passe par la communication efficace et une documentation appropriée. Hélène, d'ailleurs, l'explique très bien.
En fait, on peut s'assurer que l'équipe de soins puisse avoir la même vision en ayant des directives claires dans les plans de soins. Nous, à domicile, on a un plan de soins, on a les PTI. Fait que ça nous aide beaucoup un peu à avoir toute la même ligne de conduite, les intervenants, pour essayer d'avoir un peu aussi la confiance de l'usager. S'il y a des particularités chez un usager, je pense que c'est bien que un peu tout le monde soit au courant de la marche à suivre pour s'assurer que la rencontre à domicile se passe bien.
On peut en effet utiliser, selon le milieu où on est, par exemple, le plan thérapeutique infirmier, le plan d'intervention interdisciplinaire ou le plan de service individualisé. Il existe d'autres façons d'y arriver. Peu importe comment on les appelle, naturellement, c'est important de s'assurer d'utiliser les bons outils selon les particularités de chacun des milieux et que tous les professionnels concernés y aient accès naturellement.
Oui, Cynthia. Mais tu sais, je sais qu'il est aussi important de mettre à contribution les usagers dans les différentes prises de décision qui le concernent. Parfois, c'est bien évident et facile, mais on sait que des fois, ça peut être aussi très complexe. Certains usagers pourraient carrément pas être à l'aise, pas se sentir en mesure de le faire ou encore simplement ne pas avoir la capacité de contribuer à ces prises de décision-là. Gaëlle nous explique justement que parfois, c'est pas toujours possible, mais qu'on a tout de même un rôle à jouer là, important. Fait que, écoutons-le.
Pour la prise de décision, c'est sûr que ça peut être complexe dans un milieu comme les soins intensifs. Il peut y avoir des urgences, des situations dans lesquelles il faut prendre des décisions rapidement ou même que le patient n'est pas apte lui-même à prendre des décisions. C'est souvent dans ces moments-là aussi qu'on a recours à la famille pour nous aider à guider nos décisions puis savoir qu'est-ce que le patient aurait voulu, aurait souhaité. Moi, je trouve que mon rôle comme infirmier à ce niveau-là qui est important, c'est toujours de venir valider avec la famille leur compréhension de la situation, vulgariser aussi les faits.
Ça me parle vraiment ce que Gaëlle apporte comme point. Bien, en effet, la famille, les proches sont des alliés vraiment importants, puis il ne faut pas les oublier, surtout dans des situations plus complexes ou des situations là, de grande vulnérabilité. C'est inspirant d'entendre là, ces beaux témoignages-là, puis ça me donne tout plein d'idées pour mieux intégrer l'approche avec et pour l'usager, puis ça, c'est dans mon quotidien.
Oui, c'est vrai, Sophie. On a un rôle important au sein des équipes de soins pour assurer que les informations circulent bien. Mais accompagner l'usager, ça ne veut pas dire de mettre de côté son expertise infirmière, là. Je me trompe pas, Cynthia?
Absolument, Julie. L'approche d'accompagnement permet d'allier en synergie nos forces comme soignants avec celles de l'usager et de ses proches. En les accompagnant, la personne soignante alterne de façon judicieuse et consciente entre deux postures, la posture de facilitatrice et la posture d'experte. Alors, dans la posture de facilitatrice, l'infirmière se centre sur le cadre de référence de l'usager, c'est-à-dire ses forces, ses expériences. Elle évite à exprimer sa façon de voir, d'interpréter ce qui se passe, à exprimer ses inquiétudes et ses désirs. Il est vrai que notre culture de soins et services favorise davantage la posture d'expert, hein? On le sait, non? Soit l'infirmière qui s'appuie sur son propre cadre de référence à elle, donc ses connaissances, ses expériences, son jugement clinique, pour analyser la situation et les utiliser pour travailler auprès de l'usager. Les deux postures sont utiles et pertinentes, mais alors qu'on a tendance à adopter davantage l'expertise dans nos milieux, il est porteur d'adopter la posture du facilitateur dès que possible, parce que là, on va dans le cadre de référence de l'usager et on renforce son pouvoir d'agir.
L'usager, comment il se positionne finalement dans tout ça? Bien, pour rendre ça un petit peu plus concret, je vous invite à écouter M. Carpentier, qui nous partage au travers de son expérience personnelle comment il a vécu le fait d'être au cœur de ses soins. Il nous exprime aussi à quel point ça a eu un impact sur son parcours.
Tu sais, il y a quelques années, moi, j'ai subi une chirurgie bariatrique. Et je suis convaincu que ne c'était de ma propre implication, j'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui. Tu sais, une chirurgie bariatrique, là, t'as la chirurgie, mais t'as tout ce qui va avec. Si tu t'impliques pas, là, oublie ça. Mais pour s'impliquer, il a fallu qu'on se parle. Il a fallu qu'on se comprenne. Ma première contact que j'ai eue, on prend mon tour de table. Ça prend deux tapes pour venir à bout d'avoir le chiffre. Et là, je regardais l'infirmière. Je lui dis, tu sais, j'ai pas besoin que tu me condamnes, puis j'ai pas besoin d'eux. J'ai dit à toi le matin, quand je me regarde dans le miroir, je suis capable de le faire tout seul. Si tu veux, j'ai besoin de toi. C'est ça, j'ai besoin. Comprenez-vous l'importance de la communication pour que l'usager et ses proches soient impliqués dans le traitement? Tout est là. Tout est là. Il y a un médecin qui m'a dit, quand j'ai été greffé, parce que j'ai été greffé du foie, il dit, Michel, on va faire 20% de la job. Il dit, 80%, ça va se passer dans ta tête puis de la manière que tu vas te comporter. Ah ouais? Quand j'ai été greffé, on m'avait dit que je serais en 4 et 6 semaines. À l'hôpital, j'ai été 17 jours. On m'avait expliqué. On s'était parlé. Je savais quoi faire. Tu sais, on est devenu une vraie équipe, là, un vrai partenariat. Tu sais, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas le temps, puis ça prend du temps, puis j'ose, puis... Non. Au bout de la ligne, là, j'ai été 17 jours, pas 6 semaines. On a gagné du temps, là. Si vous voulez que les gens soient actifs, parlez-leur.
Comme M. Carpentier l'exprime bien, quand on accompagne l'usager et ses proches, on les aide à développer leurs compétences à eux. On crée des conditions propices à l'apprentissage et on les expose à des situations dans lesquelles ils peuvent construire avec nous et ainsi avoir un rôle actif dans leur santé et leur bien-être.
C'est tellement important, là, comme le dit M. Carpentier, de se rappeler que ce qu'on fait comme professionnel, ce n'est qu'une partie de la solution, parce que l'usager et ses proches, c'est eux qui détiennent souvent une très grande partie du pouvoir sur les résultats. Puis en fait, si on ne les aide pas à développer leur compréhension, leur capacité, si on ne les accompagne pas en fonction de leurs besoins, bien, ce n'est pas réaliste d'y arriver finalement.
Je sens que j'ai déjà pas mal tout ce qu'il me faut pour y arriver, mais je sais qu'il y a parfois des défis importants. J'aimerais vraiment avoir des conseils pour y arriver, Cynthia. Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-uns?
Oui, certainement, Sophie. Au quotidien, hein, j'échange souvent avec des professionnels qui, comme vous, ils sont bien d'accord avec les principes de cette approche, mais qui voient des freins dans son application. Par exemple, on parle beaucoup des contraintes de temps, les profils, les intérêts ou les capacités du moment de l'usager en phase 2, ou encore dans leur propre capacité comme personnel, comme soignant, à aller dans le cadre de référence de la personne en phase 2. Quand le manque de temps est un enjeu, moi, j'ai tendance à proposer d'essayer concrètement, simplement là, dans la mesure du possible, de retarder, ne serait-ce que d'un petit 30 secondes, votre expertise auprès de l'usager. Ne serait-ce qu'un « comment voyez-vous ça? Comment comprenez-vous ça? » pour voir jusqu'où on peut rester dans l'accompagnement avec lui et voir où cela nous mène de rester un peu plus dans son cadre de référence. On peut être surpris. On se souvient que considérer l'expérience usager permet d'être plus pertinent, d'intervenir plus efficacement, vous l'avez dit. Donc, c'est souvent du temps gagné au final. On peut aussi vérifier, après avoir donné une explication à l'usager, de dire, dans vos mots, là, comment est-ce que vous résumeriez qu'est-ce qu'on vient de discuter? On peut aussi se donner le droit de nommer à l'usager, de rendre l'explicite qu'on va le faire participer. Hein. Je vous propose qu'on travaille en équipe. Hein. On a tous les deux un rôle à jouer. Moi, j'ai quelque chose à faire, vous aussi. Il faut mentionner aussi qu'il y a des moments où c'est approprié d'aller plus dans l'expertise. Hein. On ne l'oublie pas, là, que ça ne veut pas dire qu'on ne le considère pas ou qu'on n'adaptera pas quand même nos soins pour répondre à ses besoins ou s'adapter à ses particularités. Je pense par exemple à un usager sédationné, en délirium, trouble cognitif ou fin de vie. Dans ces situations-là, le rôle du proche, des proches aidants, c'est d'autant plus crucial. Et il y a quand même des petits gestes qu'on peut faire, notamment quant à la communication relationnelle, par exemple, valider les ressentis, expliquer la procédure pendant ou après, laisser du temps pour la décision aussi, le tout avec humanité et empathie. Également, prendre un petit peu de perspective, un temps d'arrêt pour réfléchir à ses pratiques peut être très éclairant. À plus forte raison quand on vit une difficulté. Donc, cerner nos acquis, questionner nos défis. Vous êtes appelé à travailler avec différentes personnes. C'est normal parfois de se sentir confronté dans certaines situations. On est tous comme ça, moi y compris, moi aussi je suis comme ça. Vous pouvez vous questionner sur les situations, les opinions, les idées préconçues qui ont tendance à venir interférer avec vos capacités à travailler avec les usagers. Puis aller chercher naturellement du soutien si requis.
Mais tu sais, ça reste que parfois, là, on peut faire face, par exemple, à des usagers qui semblent pas vouloir s'impliquer, qui peuvent paraître alors un peu comme réfractaires, pas collaborateurs, peu collaborateurs. Mais Gaëlle nous explique très bien qu'il faut voir au-delà de cette première impression-là. Et Hélène, là, pour sa part, elle nous rappelle l'importance de s'adapter à la réalité et aux capacités de chacun là, également. Donc, écoutons-les.
C'est quelque chose qui est quand même qui fait partie de notre réalité. Je pense que la meilleure manière de régler ça ou en tout cas d'approcher une situation comme ça, c'est simplement d'être ouvert au patient, d'être à l'écoute de ses besoins, de ce qu'il exprime. Parce que c'est très, très rare qu'il n'y ait aucune raison derrière un refus ou un manque de collaboration du patient. Très souvent, il va avoir une explication logique, un raisonnement de la personne qui explique le tout. Fait que je pense que c'est simplement prendre le temps, encore une fois, d'être à l'écoute, d'être ouvert aux patients, t'sais, sans jugement, sans a priori.
Ça serait important de respecter les limites de l'usager parce qu'on faut aller avec des demandes qui respectent aussi ses limites physiques, cognitives, puis pas essayer de tout changer les habitudes de vie non plus. T'sais, ils ont des habitudes qui sont instaurées depuis des années. Fait que je pense que c'est de faire des petits gestes concrets au quotidien.
On sent vraiment l'empathie puis l'humanisme dans ce qu'ils nous partagent. On comprend qu'il faut être ouvert, curieux, intéressé pour trouver la meilleure approche dans des situations plus complexes.
Ah oui, tout à fait. Laisser tomber nos a priori, nos idées préconçues, prendre le temps de mieux comprendre ce qu'il y a derrière. C'est très important aussi, comme le dit Hélène, de s'assurer de respecter les limites de l'usager. En cas de doute, quoi de mieux que de lui demander directement? Parfois, les usagers peuvent être un petit peu mal à l'aise ou gênés de les adapter avec les équipes de soins. On peut prendre les devants et aller valider. Ça nous permet d'ajuster pour répondre plus efficacement.
On a également demandé à M. Carpentier comment lui, avec son point de vue d'usager, là, il voit ça. Qu'est-ce qu'il conseille aux professionnels comme nous qui parfois sommes devant un usager qui peut sembler moins engagé ou peu investi dans ses soins? Donc, allons écouter qu'est-ce qu'il a à nous partager.
Bien, moi, je te dirais, quand un usager ne semble pas comprendre, semble réticent, prends le temps qu'il faut. Cherche à identifier pourquoi tu es réticent. Pourquoi que la personne a de la difficulté à comprendre? C'est là que l'approche que tu vas avoir avec cette personne-là va prendre tout son sens. L'empathie, la compassion, être attentive, être à l'écoute. Peut-être que dans ses réactions, il y a un message à passer. C'était-tu le bon moment d'en parler? Faites-les parler, faites-les s'exprimer. Comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Puis à date, là, vous êtes rendu où? Vous sentez-vous prête à passer à une autre étape? Comment? Je peux-tu vous aider? T'sais? Chercher. On vise un partenariat, on vise une implication. Allons le toucher.
Merci, M. Carpentier, pour ces précieux conseils. Ben, ça fait tellement de sens, tout ça. J'aime vraiment l'image qu'il met, hein? Aller toucher le partenariat. Les exemples qu'il nous donne, c'est simple, c'est applicable dans nos soins de tous les jours, à mon avis.
Oui, et on en profite pour remercier M. Carpentier pour ses partages qui sont si riches et si pertinents. C'est vraiment intéressant, particulier vraiment de voir la façon que c'est présenté. Ça nous aide vraiment à voir comment qu'on intègre des petits gestes simples au quotidien, comment adopter une posture différente qui peut faire là, toute la différence. Donc aujourd'hui, je retiens particulièrement la pertinence et l'importance de personnaliser les soins et services au quotidien qu'on peut y arriver même dans des petits gestes simples. Ça nous permet vraiment d'offrir des soins qui sont plus appropriés, efficaces, respectueux, renforcer la relation de confiance aussi entre le personnel et les usagers. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça.
Mais oui, tout à fait, Julie. Bien, pour ma part, j'ai vraiment aimé la notion de développer l'agilité pour alterner entre une posture de facilitateur, d'expert. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il est important d'avoir la bonne posture au bon moment, hein, parce que chaque situation, chaque usager, bien, c'est unique. Je suis convaincue qu'on peut tous et toutes être des ambassadeurs, des beaux modèles de rôle pour nos collègues, hein, tout comme Gaëlle et Hélène là, qui nous ont fait ces beaux témoignages. Là. Merci d'ailleurs à eux d'avoir prêté leur voix là, pour nous partager leur expérience, leur vécu, puis leur perception là, dans le sujet là, qu'on abordait aujourd'hui. Je suis certaine que ça peut donner envie aux autres d'essayer de toujours en faire plus et surtout d'avoir confiance en eux.
Oui. D'ailleurs, on va écouter ce que M. Carpentier, Hélène et Gaëlle là, aimeraient nous partager pour vraiment conclure cet épisode.
Tu viens d'écouter ce que je viens de te dire. Tu trouves ça bien beau, mais tu te sens pas à l'aise de faire. Comment je fais ça? Ben moi, je te dirais, si tu as décidé d'être infirmière parce que tu as du cœur en quelque part, sois toi-même. Sois toi-même. Joue pas de game. Prends ces nouvelles. Passe en mode écoute. Sois attentif. Allez parler. Je te le dis. Sois naturel. On ne pourra jamais te reprocher d'avoir essayé.
Pour finir, je pense que le message que j'aimerais vous dire, c'est simplement de vous lancer. Je pense que si on a un esprit d'ouverture, de bienveillance envers le patient, c'est pas compliqué d'aller communiquer avec lui, avec la famille. T'sais, même moi, ça m'a pris du temps à être à l'aise. Même encore ce jour, des fois, j'hésite un petit peu, puis je pense que c'est normal pour tout le monde. Mais je pense que ça prend pas forcément grand-chose pour faire toute la différence.
Donc, pour conclure, je dirais comme conseil, ça serait important de voir les proches comme des alliés et avoir une approche chaleureuse, respectueuse, pouvoir établir un lien de confiance pour avoir la participation de la famille puis de l'usager.
Et la dernière chose que j'ai à dire, rappelle-toi cette phrase-là, j'ai entendue et je la répète quand j'ai la chance. Les gens vont oublier ce que tu as dit. Les gens vont oublier ce que tu as fait. Mais les gens n'oublieront jamais comment ils se sont sentis. Et moi, comme usager, j'aimerais ça te dire, je me suis senti écouté, cru, compris. Je me suis senti en confiance.
C'est tellement inspirant tout ça. Donc, je veux encore une fois remercier Gaëlle, Hélène, M. Carpentier pour les beaux partages. Puis bien sûr, ben, je veux te remercier, Cynthia. Donc, Cynthia Remakers, merci beaucoup pour ces beaux échanges là, qui ont été vraiment riches puis inspirants.
Hey, merci encore à vous deux de m'avoir invitée. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet aujourd'hui, vraiment. Vous pouvez faire une si grande différence en adoptant des petits gestes appropriés, en allant plus souvent dans l'alternance entre l'expertise et la facilitation, comme tu l'as super bien résumé, Sophie. Un regard, une intention. Osez faire différemment. Faites-vous confiance. Donnez-vous le droit que ça ne soit pas parfait tout le temps. Là. Accordez votre tête et votre cœur et allez-y.
C'est toujours un plaisir, Cynthia. À la prochaine.
Bonne suite, les filles. À bientôt.
Merci.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Hey Sophie, si on parle de communication avec les équipes de soins, on va se l'avouer, ça va vite dans le milieu de la santé. Beaucoup de travail, nouveautés, développement clinique pour toujours offrir des soins de meilleure qualité et plus sécuritaires aux usagers.
C'est vrai que ça va vite. Puis en plus, les équipes de soins infirmiers sont nombreuses. Le CIUS est grand aussi avec des milieux cliniques très variés puis éloignés parfois les uns des autres.
Oui, puis c'est sans compter toutes les horaires variables de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. On remarque que malgré les nombreux outils de communication, c'est complexe de rejoindre tous les professionnels en soins quand on veut partager de l'information ou une nouveauté, puis même si on reste dans un même secteur. Là.
C'est vrai, c'est vraiment pas simple. À l'automne 2023, il y a une équipe qui a eu une brillante idée pour rendre le partage d'informations plus convivial, stimulant et intéressant.
Oui, en hémato-onco, le journal On communique a été créé pour se garder à jour sur les réalisations, les bonnes pratiques cliniques, les nouveautés, les actions qui sont en cours et les projets à venir pour tout ce qui touche les pratiques cliniques en soins infirmiers en oncologie. Fait que c'est un journal collectif où plusieurs professionnels y contribuent, donc infirmières cliniciennes, infirmiers praticiens spécialisés, pharmaciens professionnels en recherche, les conseillères en soins infirmiers et aussi les usagers partenaires.
Quelle belle façon de rester informé, de communiquer. C'est pas tout. Cette initiative a été une inspiration pour d'autres trajectoires cliniques, Donc, on aura bientôt la chance de voir apparaître d'autres journaux en soins infirmiers pour plusieurs trajectoires cliniques variées. Un beau coup de cœur de la DSI.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit
comme professionnel de la santé de divulguer des renseignements confidentiels lorsque des autorités policières ou encore un avocat m'adresse la demande? Attention! De manière générale, les professionnels de la santé sont légalement tenus de ne pas révéler à quiconque toute information visée par leur secret professionnel, sauf lorsque la loi les autorise expressément à le faire. Or, les policiers, comme les avocats, n'ont pas le pouvoir de relever une professionnelle de son secret professionnel et d'exiger qu'elle réponde à leurs questions. L'article 60.4 du Code des professions prévoit qu'avant de communiquer une information protégée par le secret des professionnels, ces dernières doivent s'assurer qu'elles respectent l'une ou l'autre des conditions énoncées par la loi, soit que le client les y autorise, ou lorsque la loi le permet ou l'ordonne, par exemple à la demande d'un juge ou selon les termes édictés dans un mandat de perquisition. Néanmoins, le Code des professions prévoit que le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessure grave menace une personne ou un groupe de personnes identifiables et que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence. Toutefois, le professionnel ne peut communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées au danger, leurs représentants ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Vous devez communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. En cas de doute, notamment pour les particularités concernant le risque du suicide ou la clientèle sous la loi de la protection de la jeunesse, contactez votre supérieur immédiat ou le coordonnateur clinique et consultez la directive clinico-administrative du CIUS de l'Estrichu intitulée « Divulgation sans autorisation de renseignements confidentiels contenus au dossier de l'usager en vue de prévenir un acte de violence dont le suicide » qui est disponible entre autres dans la section « Outils cliniques » de l'intranet.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulasladj.
Transidentité en milieu de travail. La transidentité désigne le fait pour une personne d'avoir une identité de genre différente de celle assignée à la naissance. Dans le milieu de travail, il est essentiel de créer un environnement inclusif pour les personnes trans. Voici quelques points clés. Respect des pronoms et du nom choisi. Utiliser les pronoms et le nom que la personne a choisi est une marque de respect fondamentale. Formation et sensibilisation. Participer aux formations offertes et s'informer sur les questions liées à la transidentité. Accès aux toilettes et vestiaires. En permettant aux personnes trans d'utiliser les installations qui correspondent à leur identité de genre. Agir avec humanité et bienveillance, en ne jugeant pas l'identité de genre de la personne et en la dirigeant au besoin vers des ressources comme des groupes de soutien. Créer un environnement inclusif et respectueux non seulement améliore le bien-être des employés trans, mais enrichit également l'ensemble de l'organisation en favorisant la diversité et l'acceptation. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUS de l'Estrichu.
Donc, c'est ce qui conclut cet épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Soyez à l'affût pour la suite.
D'ailleurs, au prochain épisode, on va faire un voyage au cœur de la diversité de la pratique infirmière. On va visiter plein de milieux de soins qui sont moins connus, atypiques. Qu'est-ce que l'infirmière fait au quotidien dans ces milieux-là?
Donc, nous sommes Julie Blanchette
et Sophie Martin. Suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes et surtout, parlez-nous!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.